This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Maddow.
I'm recording
that now. Ah, c'est notre chronique Make America Queer Always avec Chantal Maddow, professeure à l'Université de l'Illinois en études de genre et féministe. Chantal, ça va bien?
Ben, ça va bien quand je regarde pas les nouvelles et puis j'ignore le mot hanté.
Bon, hanté. T-R-U-M-P, oui. Alors, on
Oui,
assiste à
oui,
une
oui,
offensive législative sans précédent contre les communautés de la diversité sexuelle et de genre aux États-Unis. Le Kansas, hein, vient de frapper un grand coup avec la loi SB 244. Que se passe-t-il exactement pour les personnes transgenres et leur permis de conduire?
Bon, la situation est vraiment critique, sinon tragique, en ce moment. Le 26 février 2026, donc tout récemment, le Kansas a mis en œuvre la loi SB 244, qui invalide les permis de conduire des personnes transgenres dont le marqueur de genre ne correspond pas à leur sexe assigné à la naissance. Ce qui est frappant ici, c'est l'absence de ce qu'on appelle le délai de grâce. Des centaines de personnes ont reçu, sinon des milliers de personnes ont déjà reçu des lettres les informant que leur permis était invalide sur le champ. Ça crée donc une situation de danger pour la sécurité des personnes qui risquent d'être outées de force lors d'un simple contrôle routier, d'une embauche, d'une visite à l'urgence, en passant par l'exercice du droit de vote aux élections fédérales et présidentielles.
Oui, parce que là, faut que tout corresponde à ce qui est donc dans la loi. Ça risque d'être compliqué, tout ça.
Oui, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le permis de conduire. Je vais faire ça très, très,
Oui.
très vite, Denis Martin. C'est que le permis de conduire aux États-Unis s'est imposé au cours des dernières décennies comme la preuve ultime, sinon béton, de l'identité d'une personne et par défaut de son statut économique, politique et juridique. C'est pour ça aussi que les enjeux sont énormes autour de cette décision-là.
Bon, il y a aussi un volet sur l'accès aux espaces publics.
Absolument. La loi autorise désormais n'importe quel citoyen, citoyenne à poursuivre en justice une personne soupçonnée d'être transgenre pour avoir utilisé les mauvaises toilettes dans un bâtiment gouvernemental. Et j'ai entendu entre les branches que c'était aussi même dans les bars et les restaurants. Donc, c'est une invitation à la surveillance, plus exactement, moi, ce que j'appelle un déploiement d'une milice citoyenne. Et bien entendu, au harcèlement psychologique et physique. Je veux aussi souligner ici que la milice citoyenne est une tendance lourde du mouvement MAGA
Ouais.
et des états rouges sous la présente administration. On a jusqu'à penser aussi avec les lois anti-avortement où les gens pouvaient dénoncer quelqu'un, même de leur famille, qu'ils soupçonnaient d'avoir recherché des soins pour l'interruption de grossesse et qui impliquait non seulement la femme, mais aussi le conjoint, la famille ou même le personnel médical. Donc, on est vraiment dans une tendance très, très, très lourde pour faire la délation et d'instaurer une milice de surveillance.
Pour ceux qui comprennent peut-être pas l'expression, les États rouges, c'est les États qui votent républicains habituellement parce que le Parti républicain a la couleur rouge et le Parti démocrate a la couleur bleue. Alors qu'au Canada, hein, le Parti libéral est rouge et le Parti conservateur est bleu. Alors, il faut juste comprendre ça. Mais tout ça, c'est inquiétant parce que depuis quelques mois, là, de grandes institutions, dont le Lemkin Institute on Genocide Prevention, c'est pas n'importe quoi, Lemkin, c'est lui qui a inventé le mot génocide en passant, s'inquiètent depuis un bout de temps, puis pas rien qu'eux autres, mais beaucoup de groupes s'inquiètent d'un éventuel génocide trans aux États-Unis. Je sais pas, est-ce que ces annonces-là, ça s'inscrit dans le processus, tu dirais?
Oui, tout à fait. On assiste vraiment à un effet domino en ce moment. Et on revient à l'importance de situer les décisions comme celle du Kansas en ce qui concerne le permis de conduire dans un contexte plus large de l'intégrité physique des personnes transgenres. En ce moment, un peu plus d'une douzaine d'États interdisent ou limitent la couverture Medicaid, qui est l'espèce de version atrophiée de notre régime d'assurance maladie au Québec, pour les thérapies hormonales et les chirurgies d'affirmation de genre pour les adultes transgenres. Et pour la première fois, le 11 mars 2026, donc tout récemment, une cour d'appel fédérale, plus précisément le 4e district de la Virginie-Occidentale, s'est prononcée en faveur des lois qui invalident le remboursement par Medicaid des chirurgies d'affirmation de genre. Alors ça va aussi avoir un effet. C'est la première fois qu'une cour d'appel stipule là-dessus. Et donc on va avoir un effet encore domino, là, qu'est-ce qui va se passer dans les États limitrophes.
Et ça, donc, ça risque, hein, de se répandre, là, cette sorte de loi-là, là, aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une décision, et c'est très, très, très bizarre et très particulier. C'est que j'ai vraiment creusé pour trouver cette information-là. Les médias en parlent très, très, très peu en ce moment. Donc,
Ah.
c'est encore plus inquiétant, si tu comprends.
Bon, on va aller en Floride. J'ai toujours dit que la Floride était probablement l'État le plus homophobe des États-Unis, mais peut-être qu'il y en a d'autres maintenant qui l'ont surpassé. On parle d'un éventrement du programme de remboursement des médicaments par l'administration DeSantis. Et là, il y a des conséquences pour les personnes vivant avec le VIH ou à risque de le contracter.
Oui, ben en ce moment, c'est vraiment, et le VIH et les personnes atteintes du VIH sont vraiment ciblées dans cette législation-là. Donc, c'est vraiment une véritable crise de santé publique, hein. En janvier 2026, le ministère de la Santé de la Floride a réduit dramatiquement l'admissibilité au programme d'aide médicamenteuse contre le sida, ce qu'on appelle le ADAP, faisant passer le seuil de 400% à 130%, donc presque le quart de, si tu veux, du niveau de pauvreté fédérale qui donne l'éligibilité au programme. Plus de 11 000 personnes ont perdu leur couverture le 1er mars dernier. De plus, l'État a retiré des médicaments essentiels du formulaire, comme le Biktarvy, et a cessé de payer les primes d'assurance pour les plans de l'Affordable Care Act, qui était le bébé d'Obama.
Est-ce qu'il y a espoir d'un retour en arrière là, sur ces récentes nouvelles législatives?
Oui, mais il y a quand même une lueur d'espoir qui est apparue le 13 mars, donc tout à fait tout récemment. L'Assemblée législative de Floride a approuvé le projet de loi HB 697 qui prévoit 31 millions de dollars pour établir l'admissibilité de ces 11 000 personnes touchées jusqu'au 30 juin. Cependant, ça ne règle pas tout, hein. Le projet de loi ne rétablit pas nécessairement le remboursement des médicaments les plus populaires comme le Biktarvy pour le moment.
Bon. Ah, je pense qu'on a besoin de prendre une petite pause de nouvelles plates, là, de nouvelles dures. On va parler de Judith Butler et le mouvement MAGA. C'est une nouvelle, comment je pourrais dire, inspirante peut-être. La philosophe Judith Butler a récemment commenté l'aliénation des certains partisans MAGA, là, le groupe qui suit Donald Trump, sur le dossier de Jeffrey Epstein. Ça nous dit quoi, ça?
Ça s'est passé, encore une fois, un truc qui a passé sous le radar, naturellement. Et c'est en novembre 2025, Butler s'est intéressé à une ironie tragique dans le discours de Trump. Elle mentionne que Trump a déçu une partie de sa base en cherchant à supprimer la divulgation complète des fichiers Epstein. Pour ses partisans qui croient souvent l'existence d'un État profond corrompu, ce geste fait de lui l'un de ces politiciens qu'il déteste. Protégeant les élites au lieu de les dénoncer.
Alors, elle va beaucoup plus loin aussi en expliquant pourquoi les gens adhèrent à ces discours, même s'ils sont faux.
Ça, c'est la partie la plus intéressante de son énoncé, je dirais. C'est que, selon elle, l'adhésion au mensonge de Trump n'est pas une question de vérité factuelle, mais d'affirmation émotionnelle. Sa rhétorique offre un sentiment d'autonomie et d'identité collective face à ce qu'il perçoit comme un élitisme libéral moralisateur. Le problème aujourd'hui, c'est que ses partisans, qui savouraient la cruauté sans vergogne de Trump envers les autres, se retrouvent maintenant du côté de ceux qui subissent cette même cruauté et ce ridicule. So they are becoming the butt of the joke.
Ah,
Et
c'est
ça,
eux qui deviennent le, ouais, qui deviennent le dindon de la farce, comme on dit. Ouais, voilà.
oui, exactement.
J'aimerais aussi parler d'une autre nouvelle. Ça me fait sourire. L'État du Texas a décidé que non, il n'y aura plus de passage à niveau là, pour les piétons avec le drapeau arc-en-ciel. Il a tout fait enlever ça, mais il y a une ville qui a décidé de résister comme le village gaulois.
Oui, bon, il y a toujours le débat et la question du Rainbow Flag, le drapeau arc-en-ciel ressort beaucoup. On en avait parlé dans ma dernière chronique avec New York, hein, quand Trump avait décidé qu'il fallait l'enlever sur le site historique de Stonewall. Alors, c'est intéressant de voir comment certains groupes ou certains groupuscules utilisent justement des icônes et des symboles très, très forts pour repousser une rhétorique qui est tout à fait avilissante. Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, pour moi, ça va du même côté que ceux qui protestaient à Portland, à Minneapolis, qui utilisent effectivement l'humour, hein, pour repousser finalement des moments de suppression et de répression. Alors, pour moi, ça participe de ce même, une autre façon de faire de la résistance qui est assez symbolique, mais aussi qui est très forte.
C'est très amusant parce que pour être clair, là, c'est que l'État a juridiction sur les rues, puis il a pu empêcher les passages à niveau, mais ce sont les villes qui ont juridiction sur les trottoirs. Et la ville, c'est
Exactement.
San Antonio, si je ne me trompe pas, qui a dit non, ben,
Oui.
on va mettre le drapeau de la fierté sur les trottoirs.
Et San Antonio, juste pour conclure, c'est que ce qui est important, c'est vraiment limitrophe avec la frontière du Mexique.
Oui.
Alors, c'est aussi intéressant au niveau de l'immigration, au niveau de, hein, d'un retour d'une protestation.
Ça
Voilà.
fait du bien. Merci beaucoup, Chantal Nadeau, qui est donc professeure en études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Merci.
Merci, Denis Martin. Au revoir.